personne n'était au courant de son existence. Cependant, les rares personnes qui la connaissaient disaient qu'elle était une arme. Elle n'était qu'un outil. Un outil sans cœur. Violette Evergarden, vous êtes toujours utile à la société. Violette, il n'y a plus de combat, la guerre est terminée.
Jusqu'à aujourd'hui, j'étais l'outil du Major. Seulement, s'il n'a plus besoin de moi, il n'y a plus qu'à me mettre au rebut, à se débarrasser de moi, à m'abandonner quelque part.
Fuyez, Violette. Vivez. Et soyez libre.
Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-pod consacré à Violette Evergarden, la série animée qui est donc l'adaptation du light novel écrit par Kana Akatsuki et illustré par Akiko Takase. C'est une adaptation quand même très libre hein, des light novels qui donc est déclinée en une série de 13 épisodes, un OAV de 35 minutes, un film Gaiden, donc Sai Story, Éternité et la poupée de souvenirs automatiques, et un second film qui conclut la série, qui est maudit et qui n'est toujours pas sorti au cinéma en France. Et donc on suit les aventures de Violette Evergarden, une jeune fille retrouvée orpheline et formée pour devenir une guerrière, une soldate, une tueuse implacable, mais qui au contact du Major Gilbert va découvrir les émotions, et à la fin de la guerre, après avoir perdu ses deux bras et son Major, elle doit découvrir ce qu'est une vie normale, ce que sont les émotions, et ce que voulaient dire les dernières paroles qu'il a prononcées lorsqu'il est mort dans ses bras. Voilà. Et pour cela, elle va devenir une poupée de souvenirs automatiques, qui est en gros quelqu'un qui cherche à écrire les sentiments et des personnes au travers de lettres dans une société qu'on pourrait comparer à la nôtre au début du XXe siècle, ouais. Mais à peu près, c'est pas notre monde, mais à peu près, et qui comporte beaucoup de gens qui ne savent pas forcément lire et écrire, d'où l'intérêt de ce type de personnel. Voilà. Et pour parler de cette fantastique série, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait Delphine avec moi.
Oui, ce n'est pas un monopode. Je suis là, il n'est pas tout seul.
Quoi que tu me diras, moi j'aurais eu raison dans le monopode.
Pourquoi tout de suite?
Je ne suis pas encore schizophrène, je n'ai pas de double personnalité. Une qui dit oui, une qui dit non. Et donc, la série était disponible sur Netflix, elle l'est toujours d'ailleurs. Hein,
oui.
Avec doublage français.
C'est là que je l'ai vu.
Le film Éternité et la poupée de souvenirs automatiques est disponible en DVD Blu-ray chez Eurozoom et donc elle est également sur Netflix. Et nous avons la série donc plus l'OAV qui sont disponibles également en DVD Blu-ray mais chez Also Anime. Et c'est une série qui est j'attendais en Blu-ray, je l'attendais parce que elle est magnifique, vraiment. En réalisation, on est dans le très haut sommet. Malheureusement, la copie Blu-ray est pas terrible pour la série animée, alors qu'elle est nickel pour le film, puisque c'est pas le même éditeur, hein, évidemment. Ouais. Et dans les deux cas, il n'y a pas de version française disponible dessus.
C'est dommage.
Parce que Netflix demande beaucoup trop cher pour la version française. Pour laisser donc la version pour que les éditeurs DVD et Blu-ray puissent utiliser la version française.
Ah.
Et ça c'est un vrai problème parce que la version française est de très haut niveau. Moi je sais pas si tu l'as regardé en VO ou en VF.
Non, je l'ai vu en VO sous-titré.
Donc tu t'es mangé probablement plein de contresens américains. Puisque les sous-titres Netflix ont été adaptés des sous-titres américains qui se sont permis des petites largesses d'adaptation.
Ah.
Le fameux « he's gone » qui devient « il est parti » alors qu'à la base il devait dire « il est mort ». Tu vois?
Ah. Ouais.
Bah, tu comprends, c'est un animé, il faut surtout pas dire que les gens ils sont morts, hein, parce que c'est pas bien, hein, les morts.
Après, pour moi, une grande partie de la série joue avec le fait qu'elle est persuadée qu'il n'est pas mort. Donc,
ben, clairement, parce que ça fait partie aussi du processus de deuil, j'ai envie de dire. C'est, tu refuses d'admettre la mort de quelqu'un qui t'est extrêmement cher et toute la série participe à ça.
Mais il y a même à ce qu'elle accepte
de franchir ce deuil pour avancer.
Oui, mais il y a tout ce côté-là où en fait, il y a toute cette indication où il lui a dit qu'il était parti sans jamais réellement lui dire qu'il était mort parce qu'en fait, il n'osait pas lui dire qu'il était mort. Donc, à la base, il ne lui dit pas qu'il est mort.
Bah, si t'es mort, tu vas pas le dire à quelqu'un, tu parles plus.
Non, mais je parle de l'autre, de celui qui la recrute au bureau, tu vois. Bah, lui, quand elle lui demande où est le major, il lui dit pas qu'il est mort. Hein. Il lui dit il est parti. Donc, mais pour le coup, il lui dit vraiment pas qu'il est mort. Donc,
Ouais, mais enfin, d'un autre côté, tu vois une...
C'est pas une erreur de traduction, c'est ça que je veux dire. C'est vrai, il lui dit pas. Parce qu'il
pense pas comment lui dire. Oui, mais ça arrive, là, l'exemple du Isgun, c'était pas par rapport à cette scène-là. Je sais plus, c'était par rapport à une autre scène d'un des clients du jour, en fait. Mais après, tu peux comprendre, elle se réveille, elle vient de découvrir qu'elle a des bras mécaniques, que la guerre est finie, elle sait pas quoi faire. Enfin, elle est... Ouais, enfin, je pense que n'importe qui dans ce cas-là lui aurait pas provoqué le choc de la révélation que le major n'est plus là, quoi. Enfin, et elle refuse de l'accepter. Et voilà. Et finalement, chaque cas qu'elle rencontre sert à l'amener à comprendre ce fameux je t'aime qu'il lui dit. Et comprendre les émotions pour qu'elle puisse quelque part devenir humaine et vivre une vie normale, ce qu'il a toujours voulu le major par rapport au flashback qu'on a de son éducation. Voilà, il la récupère, c'est une sorte de bête sauvage, c'est une tueuse. Il va lui apprendre à lire, à écrire, à admirer la beauté du monde, les choses comme ça, parce que oui, il sait que la guerre elle sera pas éternelle et qu'il faudra bien qu'elle fasse quelque chose après, quelque part, pour moi. Oui. Et c'est vrai que c'est là que le plus gros, j'ai pas envie de dire problème, mais point qui divise la communauté, c'est quelle relation il y a entre Gilbert et Violette. Rappelons qu'il la récupère, elle a environ 10 ans. Au début de la série, elle a environ 14 ans. Et il faut attendre donc la fin du film Éternité et machin, où elle aurait entre 17 et 18 ans. Sachant que dans le deuxième film, quand il démarre, elle a un peu plus de 18 ans. Et certains y voient une relation paternelle, d'autres y voient une relation romantique.
Après, le problème, c'est qu'elle fait pas l'âge qu'elle est censée avoir, déjà. Donc, enfin, pour moi, hein, c'est... Tu dis, elle a 14 ans, non.
Non, moi, clairement, clairement.
Elle a pas 14 ans, pour moi, non. Déjà, excusez-moi, mais quand elle voyage à l'autre bout du monde, c'est pas un enfant, quoi. Donc,
D'ailleurs, regarde bien sur le, avec le film Éternité, il y a 3 ans qui s'écoulent dans le film. 3 ou 4 ans.
Mais c'est ça. Et pour moi, là.
Et graphiquement, elle ne bouge pas d'un poil. En fait, elle ne vieillit pas. Et c'est là que tu vois quand même que c'est le travail du réalisateur de l'animé qui a voulu, je pense, vraiment établir une relation plus paternelle que romantique, là où les light novels, ils y vont carrément dans leur relation romantique. C'est un couple, clairement. Et les illustrations retransmettent ce côté, parce que j'ai vu quelques illustrations qui traversent... C'est vraiment, ils sont typiques les illustrations que tu peux trouver dans des shoujo romantiques, hein, vraiment avec les deux visages très proches, les yeux dans les yeux, tu sais, avec l'homme penché comme ça sur la femme, tu sais, où il y a juste 2 centimètres qui séparent leur visage et tout ça. Ouais, là, on n'est pas dans la relation paternelle, hein. Non, il faut pas l'écouter.
C'est ça. Mais en fait, je pense que ça dépend comment tu la vois. Évidemment, si dans ta tête, tu la vois comme une gamine de 14 ans, ça peut poser problème. Moi, je l'ai jamais vue comme une gamine de 14 ans. Pour moi, elle a 17 depuis le début, en fait. Donc,
En fait, oui, pour moi, elle aurait été recueillie à 14 ans et elle aurait 18 ans au début
de la
série.
Et
pour moi, c'était ça. Parce que visuellement, pour moi, je vous dis, c'est une fille de 18-20 ans. D'autant plus que, je regarde beaucoup d'animés et les filles de 14 ans sont rarement représentées aussi grandes, aussi adultes en fait dans les animés.
Bah c'est ça. Et puis en plus, enfin, elle est quand même au contact de pas mal de monde finalement dans cette série, et elle va être en contact de personnes, d'enfants et d'enfants plus jeunes, etc. Et du coup, je crois même qu'à un moment on a une ado. Enfin pour moi, bah tu vois clairement la différence. Donc
oui, il y a la princesse Charlotte. En plus, la princesse Charlotte, elle vient dire, on en a à peu près le même âge. Ça se voit pas, hein. Parce que la petite princesse, tu sais, où ils s'échangent les lettres,
oui.
Ils se répondent les uns les autres avec le prince de l'autre royaume, et elle fait plus jeune physiquement.
Elle fait plus jeune, mais pareil, elle fait pas 14 ans non plus.
Mais paradoxalement, paradoxalement, ça me pose un problème.
Le côté, on a le même âge, ben justement, elle a pas 14 ans, c'est pas possible. Enfin,
Puis moi, je vois une relation, pour moi, oui. Au début, c'est l'épisode 5 ou 6, t'apprends qu'elle a 14 ans, j'ai fait putain encore ce truc de lolicon des japonais à la con, putain, ils font chier. Mais au fur et à mesure, et puis en revoyant une deuxième fois la série, en fait, je me rends compte que le Major Gilbert n'a jamais de geste déplacé envers elle. Pour moi, c'est un père, et de l'autre côté, c'est une jeune fille, comme tu peux avoir des tonnes de jeunes filles qui sont en admiration devant leur père, tu vois. Et encore plus renforcé parce que bah lui il l'a sauvé en fait.
Après,
et quelque part elle le sait qu'il l'a sauvé.
Alors moi du coup j'irais pas au côté paternel, tu vois, parce que là c'est peut-être trop justement bizarre, mais moi je pense plutôt au côté mentor, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est clairement plus vieux qu'elle, ça c'est clair, hein.
Ah bah, il a 29 ans.
Mais tu vois, un peu comme des fois une gamine, une jeune ado peut voir un professeur aussi, tu vois, enfin c'est
oui. Ce qui est paradoxal.
Parce qu'encore une fois, il y en a qui vont dire que c'est malsain. Bah ouais, mais citez-moi une ado qui a pas craqué une fois sur un professeur qui était un peu mignon, quoi.
Donc, ouais, ou un ado qui craque sur une prof de théâtre, quoi.
C'est ça, voilà, tu vois. Donc, pour moi, c'est plus ce côté-là, cette relation-là, tu vois. C'est, lui, il la voit, comme tu dis, de ce côté un peu paternel. D'ailleurs, il la connaît depuis qu'elle est petite. Donc, il l'a élevée, enfin, il s'en est occupé, etc. Donc, lui, je pense qu'il la verra toujours comme une fille. Et il l'a appris à l'aimer comme sa fille. Clairement, mais elle, en grandissant, je pense qu'elle le voit différemment. Tu vois ?
Oui, et d'un autre côté, je me dis, j'aimerais avoir cette position-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même des scènes où il se refuse à l'aimer, en fait. Qu'il l'aimerait bien, mais qu'il se dit, non, je peux pas, parce qu'elle est un peu comme tu dis, comme mon élève ou comme ma fille, puis qu'elle est jeune, tu vois ? Même si apparemment, dans ce monde, ça pose pas de problème d'épousailler très jeune...
Je pense qu'on est
après,
aussi dans
aussi...
la relation du « je n'irai pas plus loin parce que j'aurais l'impression d'en profiter » parce qu'elle est trop naïve, elle connaît pas le monde en fait. Il y a aussi ce côté, elle est quand même, ok, même sans parler d'âge, elle est quand même très immature et il y a plein de choses qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne sait pas, tu vois. Elle a cette naïveté enfantine malgré tout. Et du coup, c'est peut-être plutôt ce côté-là du « non, même si moi je ressens des choses, j'aurais l'impression d'en profiter en fait, tu vois. » Peut-être ce côté-là aussi. Pour moi, comme tu dis, où il se refuse, où t'as l'impression qu'il... Mmh. Parce que bon, soyons honnêtes, on parle quand même d'une personne qui ne sait pas ce que veut dire « je t'aime ».
Voilà. Qui ne comprend pas les sentiments, parce que c'est tous les sentiments. Hein. La peine, la joie, tout ça, elle ne connaît pas. Après, il faut aussi voir qu'on est dans une œuvre japonaise, et rappelons que le mariage est autorisé à partir de 16 ans chez les femmes au Japon.
Oui, bah c'est ça. Après, encore une fois, on n'est pas dans la même, on n'a pas la même culture aussi.
Voilà.
Donc déjà, de toute façon, on le regarde pas du même, de la même vue que les personnes à qui c'était peut-être désigné au départ, tu vois. Enfin,
il faut pas oublier cet aspect culturel japonais qui fait que c'est entre guillemets normal de se marier à partir de 16 ans, ce qu'on ne trouve pas du tout en France.
Mais c'est comme le côté débutant, tu vois. C'est moi je mets ça en parallèle avec des séries un peu du même style, tu vois, Downton Abbey ou Bridgerton, tu sais, où les femmes à partir d'un certain âge, elles devaient faire le truc des débutantes pour se marier. Mmh. En gros, c'était leur leur vie et elles sont destinées à ça. Et du coup, bah oui, à partir de je crois que c'est 14-15 ans. C'est le moment où elles font leur tournée de débutante pour trouver un époux. Et c'était comme ça à l'époque. Parce
oui,
que
se promettre
le plus
en
jeune,
mariage.
En gros, dès qu'elles ont leurs règles, en gros, dès qu'elles sont à la puberté, soyons honnêtes, hein, c'est dès qu'elles sont en âge de procréer, c'est des femmes. Donc, on les présente comme débutantes pour leur trouver un mari. Parce que elles sont prêtes. Et je pense que comme tu dis, au Japon, ils ont gardé cette manière de voir les choses.
Voilà, au Japon. une femme peut se marier à partir de 16 ans, un homme à partir de 18, sachant que si l'un des deux a moins de 20 ans, il faut l'accord parental tout de même. Hein.
Oui.
Donc,
ah, ça tu vois, je savais pas. Ok.
Je savais que l'âge légal du mariage était plus jeune au Japon, mais et c'est pareil, je crois que la majorité sexuelle doit être fixée à 14 ans,
il me semble, au Japon. Et du coup, le côté accord parental, c'est parce que ça va avec le côté mariage arrangé, peut-être, non?
Aussi. Parce que c'est vrai que le Japon a des gros problèmes de... Et pourtant, la moyenne d'âge de mariage, c'est 30 ans. Hein, pour.
Oui, bah parce qu'ils ont quand même un petit peu évolué et que je pense que tout le monde... il y en a encore qui se marient quand même par amour et même en vieillissant. Donc, c'est pas non plus... Mm-hmm. Tout le monde ne se marie pas à 16 ans, là-bas. Mais il y a encore des mariages arrangés, là-bas. Enfin, ça existe
oui,
encore.
Oui, c'est essentiel, même.
Il y a encore ce concept-là. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi voir ce côté-là. Nous, on la voit comme une gamine, on peut la voir comme une gamine, le côté un peu machin, mais en fait, t'as pas eu cette impression, j'ai cette impression au début, c'est ce côté-là où on se disait que de toute façon, les femmes, là-bas, elles devaient se marier, ou alors, si elles n'étaient pas mariées, elles devenaient des poupées de souvenirs automatiques. En gros, t'as l'impression que t'avais que deux voix, quoi. C'est un peu ce que j'ai ressenti au début, tu vois, c'est un peu, on te case là en attendant, quoi. C'est.
Oui.
C'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi.
Mmh. Oui, voilà. Et rappelons que la majorité sexuelle au Japon est à 13 ans. C'est des règles différentes de chez nous. Et c'est le problème, c'est que oui, on a aussi tendance à le regarder par le prisme de notre culture, quoi, en fait.
Oui.
Mais, 13 ans, ça correspond à l'âge moyen où, normalement, tu as débuté ta puberté en tant que femme, quoi. Enfin, même certaines avant, mais je pense que ça doit être à peu près ça, la moyenne.
Oui, c'est l'âge moyen. 12,5.
Ouais. Oui. Oui, donc on le met à 13 ans, et voilà.
Voilà.
À 13 ans, elles sont techniquement en âge de procréer, on va dire. Donc, elles peuvent avoir des... Mais c'est aussi particulier au Japon. Il faut voir que le Japon a une natalité extrêmement déclinante, une population très vieillissante. Donc, il y a aussi, quelque part, tout... Les règles sont aussi faites de sorte à, entre guillemets, favoriser les couples et donc espérer avoir une nouvelle génération de Japonais suffisante pour renouveler la population, quoi. Et c'est aussi un peu ça.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une œuvre japonaise créée par des Japonais. Et voilà, quoi. Enfin, c'est la même chose que Sailor Moon. Soyons clairs, Sailor Moon, elle est en fin de collège. Je crois que c'est saison 1 ou saison 2 où elle doit passer les examens pour rentrer au lycée, tu vois. Donc, elle est aussi dans cet âge-là. Alors que son cher Bourdu ou Mamoru en VO, lui, il est déjà à l'université, hein, donc il est déjà adulte.
Tu dis que si c'est au début, tu dis en gros qu'elle a quoi, 14 ans et lui, il en a
11 ans.
Si c'est genre la première année d'université, il a 18-19, quoi. Bon, à la fin, ça fait que 4-5 ans de différence, c'est pas non plus, tu vois.
Ouais, mais 4-5 ans entre 14 et 19 et entre 21 et 26, c'est pas la même chose, quoi. Enfin.
Oui, je sais.
Il y a la maturité de la personne, quoi. À quel niveau elle est mûre? Tu peux très bien être mûre à 15 ans, comme tu ne peux pas l'être à 19 ans, hein.
Ça, c'est pour moi, la maturité, dépend du vécu. Donc après, une fille de 15 ans peut être très bien plus mature. Enfin...
Voilà. Mais c'est vrai qu'après, dans l'animé, parce que je n'ai pas lu les light novels, hein, je vais être clair, et de ce que j'ai pu voir un peu sur Internet des résumés, des avis où le côté romantique est beaucoup, beaucoup plus poussé, j'ai l'impression que le réalisateur de la série animée n'a pas voulu aller sur ce terrain-là, et il y a toujours finalement une distance entre eux deux. Ils sont jamais finalement collés l'un à l'autre, ou comme tu dis, quand il vient la toucher genre une main sur l'épaule, c'est plus pour la féliciter que pour dire t'as la peau douce, tu vois. C'est
là où elle, tu vois, là où elle, pour moi, l'amour qu'elle lui porte, c'est pas juste un amour admiratif.
Voilà.
Tu vois, son côté du quand il lui demande quel cadeau il pourrait lui offrir pour lui faire plaisir et qu'elle choisit la broche qui a la couleur de ses yeux.
Mmh.
Oui, clairement, pour choisir ça, c'est qu'elle éprouve quelque chose de plus fort qu'un amour, tu vois, pour un père, tu vois.
Et souviens-toi, dans un des derniers épisodes, quand elle va rencontrer la mère voit la broche, elle fait exactement la même réflexion. Elle a la même couleur que les yeux de mon fils.
Bah oui, parce
Parce
que
que tu vas pas
encore
dire
une
qu'il y a
fois.
une relation romantique entre la mère et son fils non plus.
Bah non, non, alors non. Non, pas dire ça, mais le problème, c'est que justement, soyons honnêtes, la majorité des gens ne remarquent pas forcément la couleur réelle des yeux. Tu vois, oui, ils vont regarder, ouais, les yeux verts, et voilà, sans basta. Pour avoir un
Les
tel truc
nuances
sur
dans le
les yeux,
verre.
la nuance, etc., et le côté du ouais, ça c'est la même couleur, justement, faut que ce soit ou ta mère, ou la femme de ta vie. Soyons honnêtes. C'est. Voilà. J'ai. Ouais. Enfin. La plupart du temps, quand je discute avec la famille de mon mari, la plupart, ils font, il a les yeux comme ça. Non, il n'a pas les yeux comme ça. Parce que moi, je les vois assez, de assez près, si tu veux, pour voir vraiment la nuance de la couleur. La plupart des gens, ils me disent, oh, il a les yeux marrons. Non, il n'a pas les yeux marrons. C'est faux. Tu vois? Donc, pour moi, non. Vraiment,
Oui,
pour
ou
repérer
même
vraiment la vraie couleur des yeux, c'est où? Faut vraiment être, voilà, genre, la mère, parce que, bah, ton gamin, tu le regardes dans les yeux assez souvent. Voilà. Ou la femme de sa vie.
Ouais, mais après, ça, encore une fois, ça se comprend dans le contexte de la vie qu'elle a connue et Violette. Donc, oui, ouais, c'est presque, je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'est vraiment, ils sont dans un entre-deux et ça y gagne à ce que ça soit pas explicite comme dans l'animé. Je pense que le light novel va trop loin dans le truc, tu
Alors
vois.
après, moi, je sais pas si, ouais,
Mais n'ayant
ici,
pas
beaucoup
lu,
plus loin,
voilà.
je l'ai pas lu, donc je sais pas non plus.
C'est
Ça,
des
c'est.
ressentis que j'ai pu avoir par rapport à des gens qui ont lu, sachant que la plupart en plus ont lu des fans de traduction parce que bah, il est tout simplement pas publié en France, donc il n'a pas été officiellement traduit en français par non logiquement un traducteur qui connaît le japonais et donc qui sera capable de saisir les nuances de tel et tel terme. Voilà. Mais bon, globalement. Je veux dire, les illustrations qui parsèment le light novel, hein, pour rappeler, le light novel, c'est un roman qui est parsemé de quelques illustrations qui fait environ 300 à 350 pages en général,
Ouais.
qui est composé beaucoup de petits paragraphes et beaucoup de dialogues. Ça se rapproche assez de la bitlite, quoi, tu vois, dans le format. Sauf que tu rajouterais, je sais pas, une illustration tous les 15 ou 20 pages.
D'accord.
Quand tu vois les illustrations, ça laisse quand même. Ça va dans
Elles
le
sont
sens des commentaires,
explicites,
quoi.
c'est ça? Ouais, elles sont
Bah, comme
plus
je te
explicites.
dis, c'est le cas de l'illustration du voilà, ils se regardent, ils ont quelques centimètres à peine qui séparent leur visage, avec l'homme qui est penché, enfin Gilbert donc qui est penché au-dessus de Violette, tu vois, ils se regardent droit dans les yeux à quelques centimètres. Oui, tu vois, on est à deux doigts du bisou, quoi, tu vois.
Oui, bah, c'est ce que je te dis. C'est voilà. C'est après, je te dis pas que lui-même ne la voyait pas comme ça au début et que ça a pas changé sur la fin.
Que
Tu
ça
vois,
aurait évolué.
voilà, c'est pour moi. Après, voilà, quand t'es très proche de quelqu'un, ça peut aussi évoluer. Donc, c'est voilà. Après, ils étaient tout le temps ensemble aussi, donc ils pouvaient compter l'un sur l'autre et tout. Donc, peut-être qu'en vieillissant, ça devient plus compliqué.
Voilà, justement, avec la maturation de Violette,
Bah c'est ça, quand elle
voilà.
devient une vraie femme, en l'occurrence, tu vois,
Quand
ça reste un
physiquement,
homme,
elle a l'air
quoi.
d'en avoir 20 et pas
Voilà,
14.
c'est ça. Oh là là, je crois qu'on a passé trop de temps là-dessus, là.
Bah, c'est la clé du truc parce que en fait, il y a aussi c'est la division pour certains, c'est une œuvre romantique et donc les histoires viennent soutenir cette romance et pour les autres, c'est plus une histoire de comment faire son deuil, comment reconstruire sa vie après un drame en fait. Et que ça
Alors
soit au
pour
travers
moi,
de Violette que des cas, parce que finalement tous les cas sont liés à la guerre qui vient de se terminer
oui,
ou
mais
qui.
pour moi c'est les deux. En fait, c'est pas une question d'œuvre romantique ou une œuvre sur le deuil. C'est une œuvre émotionnelle, tout simplement. C'est une œuvre qui va, voilà, qui va lui apprendre à lui faire découvrir les différentes émotions qui existent et qui vont l'aider, elle, bien sûr, à faire son deuil. C'est évident. Mais après, pour moi, c'est un peu les deux, en fait. Oui, il y a de la romance, parce que t'as aussi des histoires d'amour. Je veux dire, la princesse Charlotte, par exemple. Enfin,
Oui, mais la
y a pas
romance,
que du
là.
deuil, il y a pas que des choses liées au deuil et à la mort. Donc, par contre, il y a aussi des épisodes qui sont clairement liés au deuil et à la perte. Donc, pour
Oui, mais
moi, la clé,
après,
c'est l'émotion, tout simplement.
après, quand je disais la romance, c'est la romance entre Violette et Gilbert, hein. C'est pas. Et puis même Charlotte et la princesse Charlotte et son, je sais plus comment c'est, Léon, je crois, ou un truc comme ça,
Et après,
son.
c'est difficile
Le
de
but,
voir une.
c'est un mariage d'union de deux royaumes pour stabiliser la paix après la guerre.
Oui, mais au final,
Donc
tu découvres qu'en fait, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, quoi. Donc,
oui.
Bah, moi, c'est ce que je retiens aussi, c'est que finalement, à chaque épisode, tu te rends compte que de toute façon, en tous les cas, ce qui est important, c'est l'amour que les gens se portent et ce qu'ils ont envie de se dire, d'exprimer leurs sentiments, tout simplement. Donc, c'est et même quand les choses sont pas forcément belles et quand il s'agit d'une mère qui dit adieu à sa fille, tu vois, c'est
Ah putain non, pas cet épisode.
à cet épisode, je m'en remets pas. Hein, c'est il m'a juste
Ah.
cloué sur place.
Ah oui, le 10e épisode
J'ai
où...
pleuré, mais comme un bébé sur cet épisode. Il est juste fou.
Tu sais, la première fois que je l'ai vu, grosso modo, j'arrive au milieu de l'épisode, je fais, mais je vois pas où ils veulent en venir, en fait. Et même, elle était un peu gonflante, la petite Anne, hein, soyons clairs, au bout d'un moment, à faire ses crises, hein, on aurait dit une ado de série américaine, quoi. Enfin, ouais, quand tu comprends que c'est sa mère qui lui écrit des lettres parce qu'elle va, elle sera plus là pour chacun de ses... Oh, mais mon Dieu, je me suis... Et là, quand je l'ai revue, la série, dès le début, je savais à quoi m'attendre. J'ai commencé à pleurer. Oh, je me suis dit, putain, non, c'est cet épisode-là. J'ai tout de suite eu les larmes aux yeux. En fait,
Après, alors,
c'est...
tu vois, la différence de toi, c'est que moi, j'ai compris dès le départ, en fait, par rapport à la relation avec la mère et la gamine. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis mère moi-même, hein, mais j'ai compris dès le départ qu'en fait, elle était malade, qu'elle allait mourir et qu'elle
Ah oui.
est en train de lui écrire les lettres pour elle. Donc, c'est vrai que du coup, dès le départ, je trouvais ça très, très poignant. Et bah, du coup, la fin, voilà, quoi,
Ouais, mais
c'est.
tu vois, j'en étais pas dans ce, comment dire, dans ce cadre de me dire, elle écrit la lettre pour chaque anniversaire de sa fille pendant les
C'est vrai que
50 ans
ça,
à
par
venir.
contre, c'était
Moi,
plus sous-fait.
elle cherchait à écrire une lettre à quelqu'un pour confier sa fille, en fait. Tu vois, c'est parce que là, grosso modo, c'est la servante qui l'a élevée de, donc elle avait, je crois, même pas 8 ans quand la mère est morte, puisque la première lettre, elle lui dit, t'as 8 ans, machin chose. Moi, je me dis, ouais, super, elle a géré le domaine pendant plus de 10 ans toute seule. Et d'ailleurs, tu revois, non seulement cet épisode a un impact, mais il a un impact dans le deuxième film aussi. Parce que bon, je l'ai vu, mais je veux pas te spoiler. Mais en fait, il y a trois histoires en parallèle qui s'entremêlent, et il y en a une qui se passe dans le futur avec la petite fille de Anne, justement, qui part à la recherche de Violette. Parce qu'elle avait découvert à la mort de Anne, donc sa grand-mère, les lettres que Violette avait écrites, et elle veut retrouver Violette, elle veut comprendre qui c'était Violette, parce que dans le futur, les poupées auront plus ou moins disparu, en fait, remplacées par les moyens de communication modernes. Donc tu
D'accord.
la vois dans une intrigue, j'ai envie de dire tertiaire, qui traverse le film et qui fait lien de transition entre différents éléments du film.
D'accord.
Voilà.
OK.
Donc oui, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, tous les éléments ont leur importance. Par exemple, dans l'OAV là, donc sur la pièce de machin là, de théâtre à la con, tout ça.
Oui.
Oui, c'est
Oui, oui.
oui, c'est la pièce de théâtre. Oui, c'est bien
Oui,
l'OAV. Oui,
oui,
c'est
avec
censé se passer
la
entre l'épisode
chanteuse.
4 et 5 ou je sais plus quoi là, mais
Oui,
qui est.
oui, oui, oui. Bah, ça prend d'ailleurs beaucoup son sens hein, quand tu découvres que ça se passe entre l'épisode 4 et 5. Oui, c'est au niveau chronologique, les gars.
Oui. Et il a
C'est
un
là.
impact aussi puisque donc la celle qui a lunettes là dans la machin, celle qui a les lunettes là, la poupée. Erika, je crois qu'est-ce... Non, attends, c'est ça, oui, Erika, je sais plus comment elle s'appelle.
Je sais plus.
Enfin, celle qui a des grosses lunettes,
Oui, je vois de qui tu parles.
qui aide Violette dans ce machin, elle comprend qu'elle n'est pas faite pour écrire des lettres, mais pour écrire des pièces. Et ça, tu le sais au début du film. Tu vois, au début du second film. Donc tu as plein d'indices pour savoir ce que sont devenus les différents personnages que tu as croisés pendant la série.
Bah déjà, à la fin du premier film, voilà, quand elle se demande, entre guillemets, enfin, c'est pas à la fin, mais au milieu du. Enfin, presque à la fin, je veux dire, au milieu de la deuxième partie du film, où elle demande c'est quoi ton rêve, etc., elle dit clairement qu'elle veut écrire des romans, déjà. Donc, tu sais que non, elle, son rêve, c'est pas d'être une poupée, c'est automatique.
Oui, parce qu'elle n'est pas, a pas cette capacité d'empathie en fait que les autres ont.
Non, c'est ça, parce que
Voilà.
ce qu'elle veut, c'est raconter des histoires qu'elle a elle-même inventées, en fait. Elle veut pas retranscrire ce que les gens pensent. C'est pas ça qui lui plaît, quoi. Donc, ça. Elle veut écrire quand même.
Après, voilà, c'est peut-être un petit point faible entre guillemets de la série, c'est que l'entourage n'est pas extrêmement développé. Enfin voilà, les autres Dolls, là, Cattleya, Iris, Erika, bah elles ont droit à leur épisode en début de série, enfin du moins Iris et Erika, parce que Cattleya n'en a pas. Ouais, et puis elles sont présentes, mais enfin, je sais pas, c'est elles auraient pu participer peut-être plus à l'apprentissage des sentiments par Violette, quoi.
Oui, parce que finalement, à part leur épisode qui leur est consacré, après, tu les vois
Elles
vraiment
sont là,
moins,
bon, elles sont
quoi.
dans le décor, voilà. Bon, ben, oh, Violette, ça va? Oui, ça va. Bon, ben, ok, merci. Et puis même entre le chef et puis l'autre là avec ses talons hauts, Bénédicte, c'est
Oui.
pareil, ils se connaissent. Comment Hodgins a connu donc le Major Gilbert, tout ça, ça on le sait pas en fait. C'est développé dans les light novels, mais dans la série, tu sais pas comment ça se fait que Bénédicte, le mec qui se balade avec des talons hauts, soit un ami de Hodgins et fondé tous les deux la boîte quoi. Enfin, il a été un des premiers employés de la boîte
Oui,
comme
bah oui.
Kateya. J'aurais bien aimé à en savoir un peu plus sur leur passé aussi, quoi. C'est
Bah, c'est ça, ça manque un peu parce que finalement, tu le vois un peu plus dans le téléfilm puisqu'on voit que son, voilà, on voit que le métier de postier est important aussi, chose qu'ils n'avaient pas trop montré jusque-là et tout. Donc voilà, mais je m'attendais aussi à un peu plus de développement pour lui.
voilà. C'est après, c'est la série s'appelle pas Violette Evergarden et le bureau de poste. Hein. C'est Violette
Non, mais
Evergarden. Point barre. Et il y a suffisamment à dire sur Violette, donc
après, je te dirais que personnellement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal au début. Et je sais plus c'est lequel épisode qui m'a, où je me suis dit, ah, enfin. Mais au début, le tout début de saison, je t'appelais 4-5 premiers, je pense, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Parce que comme tu dis, elle a aucune empathie, elle a aucun, à ce moment-là, elle a encore aucune émotion, aucun sentiment. Et du coup, j'avais du mal à m'accrocher, quoi. Franchement, hein.
oui, parce que bon bah
C'était,
t'as le premier épisode qui te présente le personnage qui se réveille, etc., et qui décide à la fin de se faire embaucher. Le deuxième, bon bah elle est embauchée, mais c'est donc le flashback sur Erika. Le troisième, donc ça doit être celui sur ah non, c'est celui où elle va faire l'école de poupées de souvenirs et elle rencontre Lucullia.
Oui.
Donc là encore, oui, c'est vrai que là hein, c'est vraiment le début. On n'a pas forcément encore les premiers épisodes autour des lettres et je pense oui qu'il faut attendre le cinquième avec la princesse Charlotte en fait.
C'est ça. C'est à partir de là où je me
Ah
suis dit,
non,
ah, il y a...
le quatrième avec Iris et son frère.
Oui,
Son
déjà
frère.
là, j'ai commencé à... Ça a commencé mieux déjà aussi, oui. C'est
Oui,
vrai.
avec Iris et son frère, ben voilà justement les conséquences de la guerre. Et quand t'apprends pourquoi il est dans cet état-là et qu'en fait quelque part il est suicidaire. Parce qu'il n'a pas réussi à sauver ses parents, à protéger ses parents. Et voilà, mais ouais, la lettre toute simple que Iris, enfin que Iris n'arrive pas à dire, mais merci, mais toi t'es revenu en vie en fait. Voilà. Oui, d'accord, nos parents sont morts, mais je suis pas toute seule parce que toi t'as réussi à
Mais
revenir
c'est
en
pas
vie.
Iris, ça. Iris, c'est celle qui vient du petit village
Oui,
agricole,
village
là.
agricole, oui, c'est vrai.
C'est
Non, mais
du
c'est comment
avec
le
l'autre.
Bah, c'est Lucullia en fait.
Oui, c'est Lucullia.
Oui, voilà. C'est Lucullia avec son frère.
Ben, je dis, en fait, au début,
J'ai confondu les
tout
deux.
ce qui concernait les autres personnages et leur histoire, ça allait, ça passait. Mais le personnage de Violette, je la supportais pas. C'est ça.
Oui.
C'est avec elle que j'avais du mal, tu vois. Du coup,
Et c'est
j'ai
vrai
dû
que.
m'accrocher parce que même si les personnages secondaires étaient, voilà, étaient intéressants et que leurs histoires étaient, elles, émouvantes, bah, ça me suffisait pas, en fait. Et c'est en partir du moment où en fait, on la voit, elle, évoluer, où on voit vraiment que ça commence à avoir un réel impact sur elle, que là, j'ai fini par m'accrocher. Mais au début, j'avais beaucoup de mal, vraiment.
Et c'est vrai que
Et ça, je crois que
ben
ça arrive qu'avec, peut-être la princesse Charlotte ou peut-être juste après, peut-être.
parce que t'as
Parce
là
qu'au début, elle reste. Au début, tu sais, elle a un impact, comme tu dis, mais elle s'en rend même pas compte, en fait. Et t'as l'impression qu'elle en ressort rien. T'as du ça, mais non, ça passe limite pas, quoi. Donc, c'est très. En fait, c'est frustrant.
Ouais, mais
Voilà.
après je comprends l'évolution quoi. Je veux dire, elle a 14 ans, elle a jamais connu d'émotion, elle ne connaît pas son passé et apparemment elle serait amnésique de son passé. Parce qu'on sait absolument pas d'où elle vient. On sait juste que le frère du major l'a trouvée, l'a
Oui.
élevée pour devenir une arme et lui refile à 10 ans quoi en fait.
Oui.
Donc et ensuite lui de 10 à 14 ans, il lui apprend l'humanité en quelque part. Enfin, il essaye de lui donner au moins les clés pour comprendre l'humanité. Donc on ne sait strictement rien de elle, de où elle vient, de qui elle est. Et ouais, tu peux comprendre que ben elle va pas en deux épisodes devenir humaine. Et ça, j'ai trouvé que l'évolution, justement, cas par cas, à chaque épisode, elle apprend un truc et elle l'oublie pas en fait. Donc c'est bien foutu.
Et après, mais il y a j'ai trouvé que ça mettait longtemps à démarrer en fait. À partir du moment où ça démarre, c'est vachement bien fait, comme tu dis, l'évolution, elle est bien faite, elle est progressive pour moi, et ça marche bien. Mais je trouve que les premiers épisodes sont juste un peu chiants en fait. Je les ai trouvés longuets, tu vois.
Mais c'est vrai que moi, je l'avais vu au moment de sa diffusion, donc. Netflix, c'est une des rares fois où ils l'ont diffusé en simuldub, hein, c'est-à-dire qu'ils sortaient au Japon le lendemain, l'épisode était sur Netflix, ils n'ont pas attendu la fin de la saison pour mettre les 13 d'un coup. Hein. Et c'est vrai que sur les 2-3 premiers épisodes, je sentais qu'il y avait du potentiel, mais c'est surtout en fait la réalisation technique qui m'impressionnait, parce qu'on était dans une série télé qui a les moyens d'un film, et clairement quand tu vois le film Éternité, et même le deuxième film, il n'y a pas énormément de différence par rapport à la qualité technique de la série. Quand tu compares ça à un Dragon Ball ou un One Piece ou un Naruto, waouh, tu te dis, tel détail d'animation dans la chevelure des, ne serait-ce que la chevelure qui, comment elle bouge, la bouche qui se contente pas d'être en position fermée, demi-ouverte ou ouverte, tu vois, il y a.
C'est la réflexion que je me faisais en voyant le film hier, je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. C'est vraiment, visuellement, c'est waouh.
Ah mais quasiment dès qu'elle est en extérieur, tu peux faire un arrêt sur image et tu te dis, je le prends en fond d'écran en fait.
Non mais c'est ça. C'est pour ça que je me suis accrochée. Bon aussi parce que tu m'as dit que ça me plairait. Donc voilà.
Parce que j'avoue
qu'au début, ouais.
Puis quelque
en plus,
part, c'est quand
plus,
même
moi, pour le coup, j'ai un peu du mal avec les trucs des fois qui dégoulineraient de sentiments ou trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pas forcément le truc qui m'intéresse. Donc c'est vrai que les premiers épisodes, vu qu'elle, elle m'inspirait pas. Au bout d'un moment, si c'est comme ça, chaque épisode, tu vois.
Oui, mais il y avait quand même le truc intrigant autour de elle et du militaire et de son passé qui faisait que, tu te dis, je vais encore lui laisser un ou deux épisodes.
Ça démarre. C'est ça.
Mais c'est vrai que si on était arrivé à l'épisode 6 ou 7, ça démarre pas, voilà.
Mais c'est pour ça que je, tu vois, je me dis, on fait un mini-pod, mais il y a peut-être encore des gens qui n'ont pas forcément vu la série, tu vois, dire qu'il faut quand même s'accrocher. Ça va pas forcément vous plaire dès le départ, quoi. Mais après, il n'y a pas de regret, quoi.
Quand t'arrives au cas, entre guillemets, de la semaine, et tu dis, mais je veux dire, tu vois, genre après c'est Charlotte, t'enchaînes un ou deux, trois épisodes comme ça, tu fais, non, mais ça va pas être une anthologie, en fait, ou quoi. Et puis, bim, l'épisode sur la guerre.
Oui, oui.
Oh, putain.
Ouais.
Et je me souviens, tu vois, dans le dernier série pod, quand je me suis plaint qu'il n'y avait pas de sang dans les séries, on va faire machin. T'imagines la Violet Evergarden sans trace de sang?
Ouais, non.
Oui, mais le problème c'est que maintenant, de plus en plus, ces animés, tu vois, ou alors il y aurait eu beaucoup beaucoup moins de sang. Mais là, quand même, la scène où elle est en train de marcher et elle, boum, le bras qui tombe. Si elle te prend une balle, boum, le bras qui tombe, tu fais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Oui,
juste devant ses yeux, l'autre qui se prend la balle en plein dans l'œil avec le sang qui gicle.
Ah oui, non, c'était très violent. Et
boum, le deuxième bras, oh, putain, c'est pas grave, je vais le tirer avec les dents. Qu'est-ce que c'est?
Mais c'est ça, et puis après, ils ont enchaîné les épisodes les plus déprimant possible les uns après les autres. Nous, on les regardait tous les midis pendant un moment, mais on pleurait comme des bébés tous les midis. C'est oh merde, je suis pas prêt là.
t'es là, on est en train de mieux comprendre le moment de la guerre, le pourquoi Violette est aussi assistante pour comprendre le je t'aime, comment elle en est arrivée là avec ses bras. Et puis bim, t'enchaînes en fait le premier épisode non guerre entre guillemets, hein. C'est celui avec Anne et sa mère.
Oui.
Et tu fais, putain, mais non.
Ah oui, là, ça a été la goutte d'eau, là. Ok, tout va bien, je le vais bien.
Et c'est surtout, en plus, cet épisode, il a une finesse d'écriture, le 10. Je veux dire, oui, la fille et machin, mais tu vois, il arrive le moment où la fille lui fait, mais plutôt que d'écrire des lettres, passe du temps avec moi. Parce que la fille a parfaitement conscience qu'il lui reste à peine quelques semaines ou quelques mois avec sa mère, elle le sait.
Elle est malade, qu'elle va mourir, elle a compris, elle est pas stupide. Et c'est vrai qu'elle dit, mais attends, elle dit plutôt que, tu passes ton temps à écrire des lettres, pourquoi tu es pas avec moi, en fait? Pourquoi tu, Tu profites pas du peu de temps qui te reste pour être avec
après,
moi.
Après, le côté, il a un poil exagéré, c'est qu'elle est là pour une semaine, hein, Violette. Elle le dit. Je suis là, j'ai été embauchée pour 7 jours.
Mais
ça
c'est
va,
tellement...
quoi. Tu...
Ouais, mais non, c'est tellement réaliste. Parce que du coup, quand t'as un gamin et que tu sais comment sont les gamins, tu fais, mais c'est ça, un gamin. Un gamin, c'est insistant. Un gamin, ça a aucune patience. Un gamin, ça veut que tu sois là tout le temps, en permanence.
Puis,
Et il n'en a rien à
puis...
cirer que tu lui dises, non, j'ai pas le temps maintenant. C'est non, maintenant, et puis c'est tout. Et c'est comme ça, un gamin. Et c'est
Oui,
vrai, et c'est crédible.
Pour lui, 7 jours, c'est le futur lointain, quoi.
Mais parce qu'encore une fois, tu lui dis 7 jours, mais pour lui, 7 jours, c'est demain, c'est après-demain. Voilà, à un certain âge, ça n'a pas encore de notion réelle du temps et tout. Donc, c'est vrai que tu te mets à la place du gamin, tu te mets juste dans sa tête, tu te dis, bah non, mais elle, pour elle, elle fait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle n'est pas avec moi? Pourquoi elle ne joue pas avec moi, en fait? Moi, je veux jouer, en fait.
C'est ce que je te dis, voilà, la semaine prochaine, c'est le futur lointain. Tu vois, comme quand tu as 20 ans. Quand tu dis qu'est-ce que tu feras à 25 ou 30 ans, puis j'en ai à foutre, c'est dans longtemps. Non, c'est que dans 5 ans. 5 ans, ça passe très vite, quoi, tu vois.
C'est ça.
Et là, oui, il y a ce côté-là, mais voilà, enfin, je veux dire, la puissance émotionnelle. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est la force de cette série, c'est qu'ils y vont pas trop loin pour chercher l'alarme, en fait. Elle vient naturellement. Cet épisode, tu peux pas t'empêcher de pleurer, et ils ont pas besoin d'appuyer lourdement, d'exagérer le drama pour qu'on tire l'alarme, quoi. Il reste très sobre, voilà, tu vois pas la mère qui fait
non, c'est ça,
c'est mon dernier souffle. Non, tu vois un plan rapide.
Ils en font pas trop, et après juste le moment où finalement elle découvre les lettres et que tu te rends compte qu'elle a écrit une lettre pour chacun de ses anniversaires. Oh mon Dieu.
Non mais tu vois, c'est ça, quand la mère Violette part, la mère va jouer avec la fille, tu vois le printemps, l'été qui passe, t'arrives à l'hiver. Au plan de l'hiver, elle est plus là en fait dans le décor, et elle t'enchaîne sur le lit qui est fait, qui est plié, qui a plus de draps. Ouais. Tu comprends? Tu vois pas la mère qui fait ah c'est mon dernier souffle ma fille, ah non, t'inquiète pas, j'ai écrit des lettres pour toi.
Elle est morte, quoi.
Voilà. C'est très sobre, c'est très et tu peux pas t'empêcher de tirer des larmes. Là où malheureusement trop de fiction, oui, ils vont faire ce que je te dis, je meurs, ma fille, c'est mon dernier souffle, mais t'inquiète pas, je serai toujours avec toi grâce aux lettres que je t'ai écrites. Ah, ouais, je meurs.
Tu te dis, mais c'est juste beau, tu te dis, mais elle va recevoir du courrier, enfin, juste pendant je ne sais combien d'années, malgré que sa mère, elle soit morte, quoi. Et
les lettres sont belles, en fait.
C'est ça, elles sont magnifiques, les lettres, à chaque fois. Puis à chaque fois, elles sont personnalisées par rapport à l'âge qu'elle aurait eu. Enfin, c'est juste monumental. C'est juste, pour moi, peut-être le meilleur cadeau d'anniversaire que tu puisses avoir dans ces conditions, quoi. C'est juste encore
joyeux anniversaire, tu as 20 ans maintenant, tu as dû te trouver un super petit copain, peut-être un mari, je suis sûr que tu vas le rendre extrêmement heureux et tout. Enfin, oui, c'est là que tu fais, non, je suis toujours seul, j'ai jamais eu de petite amie.
Oui, bon. Voilà.
Mais c'est vrai qu'en plus, de fait, la vie de Anne suit finalement. Sa mère la connaissait tellement bien qu'elle a deviné, je suis sûr, voilà, elle a 14 ans, je suis sûr que t'as plein d'amis. Et en parallèle, tu la vois justement se balader dans les rues avec 3 amis autour d'elle. Tu vois, c'est... tout ce que sa mère prédisait des années à l'avance s'est déroulé dans la vraie vie. Donc, c'est dire à quel point sa mère la connaissait par cœur, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un épisode exceptionnel. C'est un des plus beaux épisodes, toutes séries confondues, que j'ai vues, quoi.
Ah pour le coup, oui, clairement, oui, c'est juste, voilà, après cet épisode, je vois pas comment vous pouvez faire mieux que ça, c'est juste, waouh.
Oui, t'arrives derrière avec les cellules résistantes qui veulent continuer la guerre, et tu rentres dans le dernier arc qui termine la série. Avec le
dossier, avec le soldat qui veut dire adieu.
Voilà, qui pour lui, c'est cool d'être dans l'armée, et quand il voit tout le monde se faire abattre devant lui, les uns après les autres par un sniper, il se rend compte de l'horreur de la guerre, il se rend compte que la femme qu'il aime, il ne la reverra jamais, qu'il ne reverra jamais ses parents, et quand Violette, elle va leur apporter les lettres qu'il a écrites, et qu'elle s'effondre elle aussi en larmes, quoi. Enfin, là, tu comprends que son parcours émotionnel arrive à son terme, en fait.
Oui, c'est ça. Là, t'arrives, tu fais, c'est bon, elle a compris.
Il manque
elle
plus que
sait
deux, trois
ce qu'il
touches.
Ressent, en fait. Simplement.
Voilà. Et arrive derrière, le coup du train avec l'attentat où elle sacrifie ses bras pour sauver le train. C'est-à-dire, elle met en jeu sa vie, elle prend conscience que, elle doit continuer à vivre, que ça fait partie des dernières volontés. Et puis tu termines sur la magnifique note de la fête des lettres, là, où.
Oui.
Bon, c'est un poil forcé, la lettre qui s'envole. qui atterrit dans un champ de violette, comme par hasard. Bon. D'ailleurs, il y a un problème, hein. Putain, c'est une zone venteuse, ce continent. Parce que ça soit dans le film Éternité ou dans l'autre, t'as les lettres qui traversent carrément le continent et les mers pour arriver là où
non,
il faut.
Non, mais c'est ça. Ça, j'avoue que j'étais comme ça, je fais non, mais vous êtes gentil, mais non, en fait. C'est
non. Ah, et dans le deuxième film, ils en rajoutent aussi, hein, des lettres qui traversent les continents et les mers, tu sais, non, pour arriver.
C'est ça. Là, tu vois, par contre, c'était too much. Je disais devant, je fais non, mais faut arrêter la moquette, là, les gars. Non, la lettre, elle serait pas arrivée où vous voulez, hein. Non.
Et voilà, elle a enfin pu elle-même exprimer ses sentiments dans la lettre. Et tu te dis, oui, voilà, c'est une fin parfaite pour la série parce qu'elle est prête à passer à autre chose.
Oui.
Elle a fait son deuil, elle a surpassé son complexe du survivant, elle a fait son deuil. Enfin, quelque part, tu te dis, oui, elle a fait son deuil, mais elle s'en remettra jamais parce qu'elle pense toujours, enfin, tu t'imagines pas qu'elle se mariera avec quelqu'un d'autre, quoi, clairement.
Non, et puis clairement, t'as l'impression aussi que dans sa tête, il est pas forcément mort, quoi.
Ouais, mais c'est comme tout, t'as envie, puis tu serais Max, tu dirais, on n'a pas vu le corps, donc il est pas mort.
Mais c'est exactement ce que je me suis dit!
Attends, le mec, il s'est fait arracher.
Mais à un moment, je me suis dit, non, mais en même temps, si vous avez pas retrouvé le corps, il est peut-être pas mort, hein.
Ouais, enfin, le mec, il s'est pris une balle qui s'est logée par l'œil dans son cerveau, il s'est fait arracher un bras, il s'est fait arracher une jambe, il s'est pris, un gros rocher sur la gueule, il arrive à un moment, quand même, bon. Mais elle est tellement amoureuse que oui, elle peut pas, ne serait-ce qu'il y ait un centième de milligramme d'espoir,
oui, c'est ça.
Et qui fait que, voilà. Et t'as quand même des indices qui poussent à dire qu'il serait peut-être pas mort de la façon dont c'est évoqué. Enfin, tu vois, par exemple, quand son frère, il la trouve, il va lui présenter sa mère. Sa mère, elle fait, oh, Gilbert, c'est toi? Ah, non, c'est vous, Violette. Tu vois, c'est...
Oui.
Bon, elle a un peu perdu la tête, ma mère. Enfin, tu vois, il y a quand même
non,
un côté...
Non, elle a pas perdu la tête, c'est une mère. Elle garde espoir parce que, justement, ils ont jamais retrouvé son corps, en fait. Encore une fois, elle a pas pu l'enterrer, donc tant que tu peux pas faire ton deuil...
C'est... Ah non, pour moi, c'est une femme qui commence à être atteinte d'une forme de sénilité, quoi. Donc, quelque part, c'est...
Non, moi, je pense plutôt que c'est le côté du... Elle a jamais pu réellement dire au revoir, aussi.
Mmh.
C'est ce côté-là... beaucoup de bah après c'est peut-être parce que j'ai vu aussi beaucoup de documentaires sur au niveau de la guerre etc, beaucoup de gens qui disaient quand ils n'avaient pas retrouvé le corps etc, ils n'avaient pas pu faire de voilà d'enterrement avec la bah, voilà vraiment faire leur deuil. Mmh. Pour eux ça leur a manqué et pour
oui.
eux ça, ils ont jamais pu faire pu
bah, dire c'est ce qui arrive aussi
réellement, donc
c'est
ils
ce qui arrive à
voilà, accepter la mort
c'est ce qui arrive à Violette quoi mais
voilà,
mais elle est
ça.
Devenue vivante à la fin de la série et elle est prête à
C'est plus ce côté du oui, non, elle a jamais vraiment accepté, je pense, la mort de son fils aussi. Tu vois. Mmh. Après, oui, il y a peut-être un peu de sénilité aussi, bon, oui, mais c'est peut-être plus ce côté-là. Elle a jamais accepté qu'il était mort.
Et donc arrive l'épisode 14, qui était sorti avec les DVD. C'était un bonus pour les DVD japonais, hein. Mmh. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, bon, ça va, c'est une histoire qu'ils n'avaient pas racontée, qui se place au milieu de la série. Bon, on en a parlé, hein, pièce de théâtre, machin.
Mais oui.
Ok. Et là, il t'annonce donc Éternité, la poupée de souvenirs automatiques. Mais ok, bon, ah, c'est un film Gaiden. Donc c'est traduit en side story. C'est pas un spin-off, c'est une histoire parallèle. C'est un concept très japonais en fait. C'est voir l'histoire se suit, mais d'un autre point de vue en fait. C'est ce qui est le cas finalement. Violette est secondaire quelque part un peu dans ce film.
Oui.
Tu vois, ça me fait un peu penser à l'épisode de Buffy où. Où Buffy est en train d'empêcher une apocalypse, mais toi tu suis Alex en fait de son côté. Tu vois?
Oui, et non, parce
c'est
que
le zéro, non c'est ça, Alex le zéro.
Enfin, je vois l'épisode où tu parles, mais là pour le coup on voyait vraiment pas Buffy, voire vraiment pas
très
du tout. Genre, tu la vois à la dernière scène et c'est tout de la Violette, on la voit quand même et elle a quand même un gros impact. Donc.
Oui, mais j'ai l'impression qu'ils se sont sentis obligés, tu vois, genre dans la deuxième partie de l'histoire.
Ah non, ah, bah, dans la première. Hein,
oui, non, mais la première, oui, la première est. La première est c'est une histoire qu'on aurait pu avoir dans la série quoi. Elle est centrée sur un personnage, elle est présente. Bon, le fan service pour ceux qui sont amoureux des relations lesbiennes, c'était quand même un peu lourd. Le côté on dort ensemble, oh là là, je partirais bien avec toi jusqu'au bout du monde.
C'est plus. Alors moi le autant le dort ensemble, tu vois, ça peut bon un côté fraternel, etc.
Oui, t'es ma meilleure amie.
Notre copine, on dort ensemble ouais. Parce qu'on est copines et tout, pas de problème. C'est le bain moi, tu vois.
Ouais, mais connaissant non, connaissant
pas,
les Japonais,
okay.
Le côté on dort ensemble dans le même lit, ça a quand même une connotation très plus sexuelle que meilleur ami, hein, en fait. Tout était poussé à...
Ah, mais tu vois, il y aurait eu que ça. Moi, ça m'aurait pas choqué. Le fait que ça vienne juste après le bain.
Oui, c'est ça. C'est tout accumul de petites choses, en fait. Voilà. Séparer toutes les choses.
Après,
séparées.
Je me suis dit oui, bon, en même temps, c'est japonais. Ouais. La réaction que j'ai eue quand j'ai vu cette scène, c'est oui, bah, c'est japonais. En même temps, hein, j'ai grandi en lisant Lovina, comment te dire.
Ouais, voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand elle serait arrivée au balcon, t'aurais eu une navette spatiale qui tombe et avec des dinosaures qui en sortent, t'aurais fait, c'est normal, c'est japonais.
En fait, t'en arrives à.
C'est ça, en fait, le truc.
C'est japonais.
Japon.
Non mais vous êtes en fait c'est... voilà c'est vraiment t'as la scène elle fait machin et elle dit ah on peut prendre le bain ensemble c'est je fais non quand même pas et là je fais ah bah si quand même ah okay. Ah bon ok, okay.
après c'est aussi le truc des bains au Japon c'est un peu spécial aussi hein le côté bain public parce que beaucoup d'habitations n'ont pas de douche ou de baignoire
non mais, mais tu sais que moi au départ j'étais partie où bah peut-être que du coup c'est le après où elle découvre l'amour.
Voilà.
Et elle avance dans sa nouvelle vie avec un nouvel amour, tu vois. Moi, j'étais partie là-dessus, je vois, ils sont partis pour lui trouver une copine, tu vois.
Voilà, coup, elle oublie le major Gilbert avec une femme. Voilà.
Ah, mais c'est ça,
mais oui, non, mais t'en as
ça. Voilà, elle se regarde tellement, voilà, quoi. Ils sont tous, chevalier princesse et tout, un vrai garçon. Hein?
Mm-hmm. Voilà. J'aime bien au début, tu sais, déjà, ils envoient Violette pour un truc, pour lui être la tutrice pendant, je sais plus combien, 3 mois, pour lui apprendre les codes de la haute société.
Oui.
Vraiment, Violette. Vraiment. Vraiment.
Alors après, je me suis dit, oui, mais elle a quand même été éduquée aussi avec les Evergarden. Donc, elle a appris les bonnes manières. Donc, c'est vrai qu'elle sait comment se comporter.
C'est vrai que...
Et comme elle a ce côté très robotique, tu sais.
Et puis elle apprend très vite,
parfait,
en fait.
Et voilà, parfait, et d'apprendre très vite. Je dis que c'est vrai que d'un autre côté, pour apprendre les manières et comment doit être une fille, je pense que oui, elle est bien placée pour le savoir. Non.
Oui, c'est ça. Et puis même si elle ne sait pas, tu lui dis... Tu as eu plusieurs exemples dans la série où on lui dit non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Tu vois, genre, au début, elle saluait façon militaire, tu sais. Et puis on lui dit non, il vaut mieux se courber légèrement. Et puis elle fait comme ça, oui, c'est pas mal. Et du coup, après, elle ne salue plus que comme ça, même quand elle se présente en tant que poupée de souvenir automatique, tu vois.
Oui, ben c'est ça, elle apprend relativement vite et
comme elle assimile.
Et comme elle a eu un entraînement très militaire aussi, qui est donc très carré, de toute façon, dès qu'on lui dit on fait comme ça et pas autrement, bah on fait comme ça et pas autrement. Tu vois, elle va pas se poser des questions ou machin. Mais après, t'as ce côté aussi un peu, de la haute, hein, je veux dire. Après, sans parler dans la haute, mais t'as toujours ce côté familial. Tu sais, t'as toujours les repas de famille où t'as les grands-parents, les arrière-grands-parents, les machins, etc. Alors, on met la table comme ça, voilà, la fourchette, le couteau, le machin.
Le protocole.
Voilà, on a tous ce petit côté protocolaire. Alors après, heureusement, on fait pas tous partie de la aristocratie avec les 50 couverts et les 50 assiettes, mais.
Oui, c'est ça. Tu as une place définie à la table, les couverts sont positionnés comme ça, tu bois tel truc dans tel verre, etc. La danse, c'est une danse particulière avec un pas de danse particulier qu'il faut apprendre et tout. Mais tu dis oui, quand la mission est arrivée, bon, la file à Violette, elle prend un livre sur les bonnes manières de la haute, elle le lit, c'est bon, elle peut aller les enseigner à quelqu'un, en fait.
Bah oui, c'est
parce
ça.
Qu'elle a cette capacité.
Puis après, n'oublions pas aussi qu'elle a passé énormément de temps avec la princesse Charlotte.
Aussi, pas énormément.
Dans la famille royale, donc clairement, je pense qu'elle est capable de dire oui, pour être une bonne débutante, tu dois faire ça, quoi. En gros.
Et ça, là, ça m'a pas. Ouais, je regardais le film, je suis mais.
Mais
c'est
par contre,
même...
j'ai pas compris pourquoi il y avait que des filles, en fait.
Bah, c'est une école de filles.
Non, mais je suis d'accord, mais tu vois, tu dis à la fin, c'est le bal des débutantes, etc. Bah, du coup, à la fin, le bal, ça devrait pas. Il devrait pas y avoir des garçons. Après, non, mais c'est peut-être mon problème que j'ai vu trop de séries avec des débutantes, tu sais, anglaises, donc du coup, ça me perturbe. Les japonais sont bizarres.
Après, à moins que c'était peut-être une répétition, donc.
Bah, c'est ça, mais du coup, ça m'a un peu. En fait, le problème, c'est que j'ai vu tellement de trucs. Parce que, moi, j'aime bien, tu vois, ces séries avec les belles robes, les machins, ou même les films, la Sissi, des trucs comme ça. Donc, le côté débutante, tu vois, c'est du vu et revu, mais du coup, c'est vrai que j'avais jamais eu le côté où, c'est que t'as que des filles. Ça m'a à la fin du bal, je me dis mais pourquoi il y a que des filles, pourquoi il y a pas les garçons pour le bal, tu vois, je trouvais ça ok, bizarre. Bon, après c'est peut-être une manière différente au Japon aussi.
Globalement, toute cette partie, c'était je vais pas dire chiant, mais heureusement qu'il y avait les flashbacks sur le passé avec sa petite sœur adoptive là.
Oui, c'est ça.
Et moi, bon, du coup, c'est hyper dramatique, tu sais. Puis bon, j'aime bien le côté du c'est la fille légitime qui a été rejetée, qui a vécu à la rue, mais quand on a besoin d'un héritier, on arrive à la retrouver. Elle qui accepte pour pouvoir sauver sa petite sœur. Bon, bah, tout ça, c'était intéressant. Mais c'est vrai que toute la partie débutante, puis ça arrive au milieu du film, tu fais, ah, tiens, bah, on va aller voir de l'autre côté, l'autre sœur. Et bah, j'ai préféré, en fait, la partie avec l'autre sœur, même si elle était moins... Enfin, c'était quand même très classique, quelque part, très directif. Bon, mais c'est vrai que t'arrives à la fin, bon, bah, le côté du... j'écris une lettre à ma grande sœur, on va la retrouver, et puis elle est là, bon, elle reste à l'écart parce que, bah, elle, même à son âge, elle comprend qu'elle ne peut plus, enfin, les deux font partie de deux mondes différents, le côté classe est très marqué, et, ouais, et voilà, et donc tu revois Taylor au début du deuxième film, bah, que, comme quoi elle est totalement intégrée à l'entreprise, quoi, en tant que.
Ah oui, parce que je l'ai pas vu le deuxième film.
Oui, voilà. Mais donc tu vois tout hein, tu te dis ouais c'est pas important mais quelque part c'est important d'autant plus que ce film te montre bien que puisqu'il se déroule bah là la partie Taylor se déroule 3 ou 4 ans ça dépend des traductions en fait dans la version française ils disent 4 ans mais dans les résumés Wikipédia ils disent 3 ans après donc je sais pas hein, trop mais tu vois que le monde se remet et que bah comme nous après la guerre t'as une vague de progrès technologique important.
Claudia qui dit à un moment que ça que il s'est passé 4 ans depuis que la guerre est terminée.
Oui c'est ça c'est tu sais qu'il s'est passé mais suivant les traductions il y en a qui disent 3 ans mais bon globalement l'idée elle est là quoi il s'est passé 3 ou 4 ans et que tu vois que le monde se reconstruit et c'est une vague de technologie avec la fausse fausse Tokyo Tower, parce que je pense qu'il se réfère à la Tokyo Tower et pas à la Eiffel Tower, hein.
Oui, clairement, oui.
Et avec, donc, où on pose le côté radiophonie, les gens qui s'adaptent, au travers de la petite grand-mère qui dit qu'au début, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là devant ma fenêtre? Et puis à la fin, le dernier truc, bon, ça sera fini quand, en fait? Ouais, mais tu vois, ce côté technologique, ces progrès technologiques font que quand t'arrives dans le deuxième film qui se déroule peut-être un an ou deux après la fin de l'éternité, bah t'es pas largué en disant qu'est-ce qui s'est passé quoi entre les deux. Ça fait un peu t'as pas cette rupture comme entre la fin de Avatar et le début de Korra par exemple.
Oui, oui.
Où il s'est passé 75 ans et ah bah oui, c'est comme ça pour progresser.
Hein on peut avoir le milieu s'il vous plaît.
Du coup ça te permet d'avancer et de voir que le monde avance, le monde tourne, le monde progresse donc oui, c'est vraiment une continuité. Et bon, bah, cette side story est très bien et tout. Enfin, tu vois, bon, c'était pas nécessaire, hein, mais bon, ça te permet d'avoir un petit regard sur l'avenir. Tu vois, bon, bah, Violette a continué son travail. Violette, elle continue, tu vois, elle continue à vivre, tu vois. Bon, bah, ok.
Et puis, je me suis dit, même, elle se diversifie parce que finalement, elle est plus, enfin, c'est pas juste une poupée parce que, comme tu vois, elle éduque une fille à devenir une débutante. Après, elle va former Taylor à devenir postière. Tu dis finalement à ce moment-là, je me suis dit bah est-ce que finalement ce serait pas un pas pour dire qu'elle pourrait être professeure, tu vois?
Oui.
Puisqu'elle est très dans la formation dans cet épisode, donc tu dis
il y a quand même plusieurs.
Est-ce qu'il n'y a pas qu'un pas à un moment où elle pourrait bah finalement au lieu d'être poupée devenir professeure et apprendre les choses aux autres, tu vois? Enfin c'est.
Oui c'est ça, tu as un regard, tu une petite piste sur ce qu'elle pourrait devenir et tout, et je fais c'est très bien. Et d'ailleurs le réalisateur qui a l'œuvre sur la série. Et ce film, pour lui, la fin de la série, l'histoire était terminée, il avait plus rien à raconter, il l'a dit
dans les interviews. Elle est belle, cette fin, elle est
voilà. Et quand on lui a dit.
Je savais pas qu'il y avait un deuxième film, tu me l'as fait tout à l'heure.
Et quand arrive le deuxième film, enfin, il fait, mais pourquoi? Enfin, il voulait pas, à la base, faire le deuxième film. Sauf que bon, en voyant le scénario, en discutant avec l'autrice ou l'auteur, comme vous voulez, des light novels, bon, il a vu, machin qu'il fallait faire, et donc, t'as ce deuxième film, dont je vais éviter d'en parler. Mais je fais pas partie des gens qui j'ai pas pleuré là où il devait où j'étais censé pleurer en fait. Tu vois, c'est pour moi le film justement il a ce que la série a évité, il a pas réussi à l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a trop de moments où on cherche à te faire pleurer, où on cherche à te forcer l'émotion. Et il est lent en fait, il est très lent, il fait quand même 2h10 de film pur.
Mais du coup, tu l'as vu en japonais, c'est ça?
Oui, en japonais sous-titré, oui. Oui, voilà. Et donc c'est un film maudit parce qu'à la base il devait sortir en janvier 2020 au Japon.
Ouais.
Il a été décalé de 3 mois parce qu'il lui fallait du temps pour terminer le film à cause de l'attentat qui avait eu lieu dans les locaux du studio d'animation en juillet 2019, qui a quand même fait 35 morts. Hein. C'est voilà. Et donc il a été repoussé à avril 2020. Problème, c'était en pleine pandémie. Donc il est sorti finalement qu'en septembre 2020 au Japon.
Ouais.
Et il était prévu pour le 4 novembre en France au cinéma dans des séances limitées.
Ah.
Voilà. Et le 28 ou le 29 octobre, notre gentil gouvernement a annoncé confinement. Et donc, Eurozoom, qui est censé distribuer le film en sortie limitée,
ouais,
ont annoncé qu'il serait proposé quand les cinémas réouvriront, au moment où on enregistre. Donc, fin février, hein, il n'y a toujours pas de réouverture prévue. Je suis pas persuadé qu'ils les réouvriront un jour.
Ouais, et puis bon, en plus c'est limité, donc il va pas sortir dans beaucoup de salles, enfin, j'imagine.
Voilà.
Ouais.
Ah, c'est Eurozoom, c'est un petit distributeur. Là, c'était prévu, les salles annoncées, donc normalement le 4 novembre, c'était le réseau Kinépolis, en fait. Donc tu l'aurais vu que dans des cinémas Kinépolis qui ne couvrent pas toute la France, par exemple.
Oui.
Après, classiquement, au fur et à mesure des semaines, ils refilent les copies. Tu sais, il va y avoir 3 ou 4 séances qui seront organisées chez Kinépolis à Metz, hein, parce qu'il y en a un. Et après, ils vont refiler ouais, les copies. Peut-être à un cinéma pâté à Lyon ou une connerie comme ça, tu vois.
Ouais.
Donc sur un mois et demi, le film il est exploité comme ça. Mais du coup, ça impose avec la chronologie des médias un report donc de la sortie DVD Blu-ray de 4 mois minimum.
Mais pourquoi est-ce que du coup c'est pas Netflix qui l'a eu comme beaucoup de films finalement qui ont pas pu sortir pendant le confinement?
Ben parce qu'en fait Netflix n'est que second quoi. En fait, les droits du film ont été attribués à Eurozoom qui l'exploite. Netflix, bah c'est comme un film de la Fox ou de Disney quoi, hein, pour eux.
Ouais.
Okay. Voilà, c'est la particularité du cinéma français. De la même manière que le film Éternité, il a été disponible partout dans le monde sur Netflix, mais il a fallu attendre genre 3 ou 4 mois de plus pour qu'il soit disponible en France à cause de la chronologie des médias. Voilà.
Mais, sauf que là, a priori, vu qu'il sort au cinéma, de toute façon, on l'aura pas avant 3 ans. C'est 3 ans hein, pour un truc que ça aille sur Netflix après le cinéma, dans mes souvenirs. Donc.
Maintenant, du fait que c'est une sortie limitée, les sorties limitées, elles ont droit à un autre traitement hein, par rapport à la chronologie des médias. Mais, donc, ils auront peut-être le droit.
Oui, enfin, au lieu de 36 mois, c'est 30 mois. Quoi. Ouais, on a gagné 6 mois.
Non, mais c'est vrai que c'est vraiment problématique. Quoi. Pour les films comme ça, qui ont des très petites sorties, des fois, tu te retrouves, oui, coincé à ne pas... Tu dis, je le verrai à la télé ou sur une plateforme que dans 3 ans parce qu'il est sorti dans 4 salles en France quoi.
Bah, enfin. C'est ça, c'est d'ici 10 ans et demi, j'aurais oublié quoi.
Mais t'inquiète pas, la première demi-heure te resitue tout le film. D'ailleurs, c'est assez enfin ils ont réussi à te replacer les personnages et te réexpliquer la situation sans que c'est trop un effet de résumé en fait.
D'accord.
Donc c'est ils ont réussi à couler ça de façon assez naturelle. Mais ça dure quand même une bonne demi-heure, donc un quart du film. Et quand le film il démarre, après il y a des scènes, je me dis mais en fait ils ont tourné au ralenti ou il y a des moments très longs d'exposition. Mais après c'est typique du cinéma japonais en fait. Le cinéma japonais est très contemplatif en fait. Quand tu regardes des Ghibli là ou des films comme ça, il y a
non,
quand même des moments.
Je crois que j'en ai jamais vu même.
Tu te dis le film il fait 1h50, t'aurais pu avoir exactement autant de scènes mais en 1h30 hein parce qu'il y a des scènes ouais, d'accord, elle est jolie la prairie, mais t'es peut-être pas obligé de rester 45 secondes dessus en gros plan, en silence. On avait bien compris l'intention du truc. Et sur certains films live, c'est encore pire. Il y a des films live, c'est carrément 3 minutes, le personnage il est assis sur un banc en train de regarder la forêt devant lui.
Mais du coup, pour toi, ce second film, il n'était pas nécessaire, quoi.
Non, mais il poursuit la vie de Violet Evergarden quelque part. Alors ils disent oui le film il apporte une conclusion à la vie de mais je me dis je suis arrivé au bout du film j'ai fait oh putain la porte ouverte pour faire une saison 2 elle est immense en fait elle est monumentale
ouais.
C'est-à-dire que la façon dont se termine le film tu fais je vois très très bien où ils peuvent continuer la suite et j'ai regardé effectivement il y a un 4e light novel qui est sorti et qui prend la suite du film j'ai fait d'accord. Et en voyant un peu le résumé vite fait des différents chapitres, j'ai fait « Ouais, d'accord, c'est exactement ce que je craignais. » Maintenant, le studio d'animation n'a rien annoncé. Donc, Est-ce qu'ils feront une saison 2 ou pas? Mais le problème, c'est que pour l'instant, le studio d'animation se remet toujours de l'attentat qu'il a subi. Hein. Donc, oui, depuis 2019, ils ont quasiment rien sorti. Hein, donc, je sais pas si c'est vraiment leur priorité. Maintenant, c'est leur plus gros carton. Et vu le succès du deuxième film, donc du coup au cinéma japonais, qui a fini dans le top 10 des entrées en 2020, qui est numéro 1 de satisfaction des films, c'est-à-dire les spectateurs japonais ont été plus satisfaits par Violet Evergarden, le film, que par Tenet, par exemple, ou des autres films. Donc c'est lui je pense qu'ils vont continuer.
Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué le cinéma en ce moment. Hein.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est, pour moi, faut arrêter. J'ai l'impression que le problème, c'est que l'autrice ne veut pas lâcher Violet Evergarden. Mais si, au bout d'un moment, il faut mettre, c'est fini, madame. Passe à autre chose. Fais une autre histoire. Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont eu l'attentat, il y a juste la saison 2 de Miss Kobayashi's Dragon Maid qui est annoncée pour cette année. Et donc, il y a eu le film Evergarden et c'est tout, hein. Donc, pour un studio qui produisait 3 à 4 séries et films par an, tu sens qu'ils ont morflé, quoi. Mais non, pour moi, j'ai envie de dire oui. Vous finissez au 13e épisode, vous regardez l'OAV en la mettant bien, hein, entre l'épisode 4 et 5 ou 5 et 6, je sais plus, enfin un truc comme ça. Ça suffit amplement. Pour moi, la fin de la série est plus satisfaisante que la fin du film, en fait. Du deuxième film.
D'accord.
Donc, mais après, c'est mon avis. C'est mon avis et c'est vrai que je peux pas en parler puisque tu l'as pas vu. voilà. Et que c'est très, très peu de monde l'a vu en France, hein, parce que, à part les projections presse, il n'y en a pas eu. Et puis, enfin, voilà, quoi. Je comprends. Il y a une partie du public qui va adorer et une partie qui va pas être satisfaite. Clairement. Et moi, je suis dans la partie qui est pas satisfaite, quoi. Parce que, voilà. Hein, je peux pas en parler. Mais,
on en parlera quand j'aurai réussi à le voir dans 2 ans et demi.
Techniquement, il est toujours aussi magnifique, quoi.
Techniquement, peut-être que j'arriverai à le voir avant s'il sort aussi nos cinémas rouvrent.
Voilà, si les cinémas rouvrent. Voilà. Bref, tout ça pour dire, ça a quand même été un plaisir de suivre les aventures de Violet Evergarden, quoi.
Oui.
C'est un magnifique personnage, c'est une magnifique série en termes techniques.
Et c'est une série aussi qui est émotionnelle, quoi, qui
c'est sur la vie, quoi.
Tu peux voir vraiment plein de choses différemment aussi, enfin, c'est
l'absurdité.
Voilà.
L'absurdité de la guerre, quoi. Enfin, tu vois, au travers de plein de personnages, l'absurdité de la guerre, l'humanité des gens, tout simplement, et la bêtise de certains, c'est une série profondément humaine.
Ça fait du bien.
Et puis la version française, elle est de très haut niveau.
Mais je me demande si j'avais pas vu un ou deux épisodes. Je t'avouerais que quand j'ai regardé le film hier, enfin l'Éternité et la poupée de souvenirs automatiques, là, je l'ai vu en VO secret. Et pendant un temps, je me suis dit, mais c'est bizarre, est-ce que je l'avais pas regardé en français avant? En fait, j'étais incapable de m'en rappeler, quoi.
Je trouve que le boulot que fait Elena Copeyans sur Violet Evergarden est meilleur que celui de la seiyuu japonaise. Je trouve qu'elle arrive à lui rendre un côté froid mais humain, et très très juste en fait, beaucoup plus juste que la voix japonaise qui est trop humaine en fait, qui est trop expressive par moment. Je me dis, elle devrait être un peu moins expressive. Je trouve que on est sur une version française de très très haut niveau. Pour le coup, c'est vraiment une œuvre qui à tous les niveaux, tous les niveaux est réussie, quoi, en fait. Après, on chipote sur des petits défauts comme le manque de développement des collègues ou des choses comme ça, mais ça reste très très secondaire.
Oui, et puis ça reste des belles histoires.
Voilà, en plus. Surtout l'épisode 10.
Oui. Faut se préparer mentalement, par contre. Hein.
Ah oui, mais même préparer mentalement, il est...
Soir,
même préparer mentalement, tu vois, je l'ai revu une deuxième fois, j'ai fait, oh putain, non. Dès les premières images, j'ai fait, oh non, c'est cet épisode-là. Et je me dis, j'ai eu dès la première minute, des larmes qui sont montées aux yeux. Donc, même étant préparé, j'ai pas réussi à...
Ah ouais, non.
J'ai vidé 3 paquets de mouchoirs, quoi, pendant cet épisode.
Ah oui, voilà. Moi, j'ai vu quelqu'un qui pleure quasiment jamais pleurer, tu vois. J'aurais fait, ok. Bon.
Et moi aussi,
j'étais en larmes aussi. Donc,
c'est difficile de me faire pleurer, littéralement. Il y a des séries qui arrivent à me faire un peu les larmes aux yeux, tu vois, au coin des yeux, mais littéralement pleurer, j'ai J'ai pas de souvenir en fait, en tout cas pas à ce niveau comme avec Violet Evergarden, donc c'est dire.
Ouais, ouais, non, c'est pour le coup, c'est poignant. C'est voilà. Fort. Voilà. Ouais.
Bien, ben du coup, merci de nous avoir écoutés hein, sur ce podcast, ce mini-pod consacré à Violet Evergarden. On fera peut-être un petit rajout au moment du film.
Voilà. Du film.
Parce qu'il y aura des choses à dire.
Oui, bah oui, j'imagine bien. Du coup, on verra si on a des bonnes nouvelles de façon cinématographique.
Et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un prochain Theripod. Allez, bonne continuation à toutes. Bye bye.
Bye bye, à bientôt.
知らない言葉を覚えてゆくたび面影の中手を伸ばすのだけど一人ではわからないことでもあるのかもしれない会いたい